Tout téléspectateur, vous,
bonjour à tous, merci d'accueillir l'Instant M où que vous soyez, même peut-être en vacances.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Ce fut l'année dernière l'un des plus gros budgets du cinéma français. Les saisons, chronique plurimillénaire de nos forêts occidentales. Mais les saisons sont choses nouvelles dans notre histoire, tout comme les arbres qui ont conquis leurs droits face à la toute-puissante calotte glaciaire qui longtemps recouvrit la Terre. Les saisons sont devenues une série télévisée, diffusée sur France 2 samedi après-midi. C'est toute l'histoire de l'Europe qui y est racontée du point de vue des animaux et de leur habitat naturel. Jacques Perrin, Jacques Clouzot, le tandem depuis 15 ans. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Jacques Perrin qui est venu il y a pile 2 ans dans l'Instant M et bim, une alarme incendie en plein milieu de l'émission. Vous étiez resté très stoïque, bravo, on vous en félicite. Après vous étiez resté bloqué dans l'ascenseur.
Oui.
Enfin bref, ça avait vraiment...
Mais je suis venu aujourd'hui non sans crainte.
Non sans crainte, c'est ça, voilà, vous êtes... On reconnaît bien l'ancien militaire, courageux sur le terrain. Voilà, tous les deux vous signez Le Peuple de la Forêt en 3 épisodes dont je dirais le contrat de lecture diffère pas mal des documentaires animaliers classiques.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Voilà, et on prend les mêmes et on recommence parce que la musique est encore une fois signée Bruno Coulet. Alors vous avez tiré, donc je l'ai dit, une série télé de votre documentaire intitulé Les Saisons, qui était sorti en 2015. L'idée, c'est que vous revenez sur Terre, tous les deux, après avoir volé avec les oiseaux du peuple migrateur, navigué avec les poissons d'océan, évidemment. Alors, je dirais, moi, que dans notre imaginaire à tous, montrer les animaux, ça signifie souvent se dépayser. Ça fait quasi partie du contrat de lecture. Il y a toujours quelque chose d'exotique, finalement, au documentaire animalier. Et pas là. Jacques Perrin.
Oui, documentaire animalier, c'est vrai qu'il y a un exotisme. Et il l'est d'autant plus, c'est d'autant plus vrai dans les films précédents, c'est-à-dire Le Peuple migrateur et Océan, c'est que nous allions tourner ailleurs.
Oui.
On était de l'autre côté de la planète, sur d'autres continents, et cette fois-ci, on a voulu montrer l'exotisme de chez nous.
C'est ça, mais,
donc,
mais même indépendamment de vos précédents films, ça fait partie du genre.
C'est vrai, mais il faut bien savoir qu'il existe aussi des sites, des contrées en Europe, en France, qui sont tout à fait étonnante. Bien souvent, c'est le regard aiguisé, c'est le regard curieux qui nous permet de découvrir des choses qui, quand on passe indifféremment ou parce que bousculé par la société, etc., on ne prend pas le temps de regarder. Mais c'est évident que la jungle et les autres rivages sont tout de suite beaucoup plus attrayants.
Voilà, beaucoup plus attrayants. Moi, je dis que peut-être ce documentaire aurait pu s'appeler « Sous le béton », non ? Sous le béton, en fait, il y a 60 000, et ça c'est pas dans votre film, c'est moi qui le précise, 60 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent en France chaque année, que l'État et les collectivités territoriales bradent ces terres, et qu'en réalité, en France, la terre n'a de valeur que quand elle est bâtie, que quand elle contient des infrastructures commerciales, routières, des lotissements, des équipements sportifs, parce que finalement, c'est ça qui crée de la croissance et c'est ça qui crée de l'emploi. Vous, ce que vous avez voulu montrer, c'est la valeur de la terre et son histoire, Jacques Perrin.
Oui, oui, c'est vrai, et qui n'est pas forcément une valeur marchande. Mais valeur marchande, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, il y a un retour. On s'aperçoit que maintenant, sur les stations touristiques, il y a, même pour les commerçants, pour les gens qui veulent investir, il y a des rendements. Hein. On sait quand on va voir les baleines sur l'océan, automatiquement, les gens qui font ça ont un résultat d'exploitation formidable. Donc, de plus en plus, on s'aperçoit que ce qui n'a pas de valeur, apparemment, en a une profondément. C'est un juste retour des choses, et de temps en temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de spéculation, mais il y a une valeur perpétuelle, il y a une valeur qui en plus, et non pas simplement au niveau du rendement, mais qui apaise. C'est quand même important de se sentir bien, c'est quand même important de pouvoir deviner des choses que la précipitation, les formes de la société, des agglomérations ne nous permettent plus de voir.
Jacques Clouzot, la fin du film est extrêmement troublante parce que voilà un plan qu'on n'avait jamais vu dans vos montages précédentes. Finalement, vous racontez tout le paradoxe de l'âge moderne, c'est-à-dire le retour de grands faunes sauvages qui ont été réintroduits en Europe, la disparition des petits animaux de nos campagnes, et ça se termine avec une séquence d'une famille loup au bord de l'autoroute.
Oui, tout à fait, tout à fait. On a, dans la série, suivi la trajectoire du loup
oui,
depuis son époque dans l'âge d'or de la forêt. Et puis après, tout au cours de l'histoire, on voit leur territoire se réduire et on vit avec eux leur disparition totale de France. Les loups ont été chassés jusqu'au dernier. Mm-hmm. Ils ont disparu également d'Angleterre, totalement. En Angleterre, ils ne sont pas revenus. En France, ils reviennent.
Alors évidemment, ce film, vous l'avez dit, c'est un retour à l'âge d'or. C'est presque le jardin d'Éden que vous avez voulu filmer tous les deux, lorsque la forêt couvrait toute l'Europe. Et auparavant, c'est quand même l'histoire d'une conquête. Parce que vous remontez à l'âge de glace, il y a 80 000 ans, quand une calotte glaciaire recouvrait tout le nord de la planète, finalement tout son hémisphère nord. Une première question pour vous, Jacques Clouzot, comment filmer la nature d'il y a 20 000 ans, c'est-à-dire au moment où cette calotte va se craqueler, va se retirer, où la nature va reprendre ses droits, sans donner dans la super production en images de synthèse, finalement à laquelle le téléspectateur est très habitué aujourd'hui?
Oui, alors ce qui est assez facile, curieusement, pour le film, c'est de retrouver l'âge de glace. Parce qu'il suffit de monter au nord. Mmh. Et on retrouve des décors qui correspondent à l'âge de glace. Autre difficulté est de trouver une forêt primaire en Europe, puisqu'on a absolument tout coupé.
Tout coupé. Alors comment
voilà,
avez-vous fait?
Là, nous sommes allés au nord de la Norvège poursuivre des rennes, poursuivre des bœufs musqués. Mmh. Et le bœuf musqué représente un animal préhistorique formidable pour nous, parce que on a pris le parti pour les saisons et pour le peuple des forêts de ne pas avoir recours à la synthèse. Donc, on ne verra pas dans le film de mammouths.
Non.
Voilà, ils existaient, on ne les présente pas. Mais par contre, ce bœuf musqué absolument est filmé comme il l'a été, en l'occurrence par Jérôme Bouvier, nous donne vraiment la sensation d'un animal
préhistorique. Et pourquoi ne pas avoir eu recours à la synthèse, précisément, Jacques Perrin ?
Parce que, voilà, ce qui est important dans nos films, c'est qu'on soit le plus proche d'une réalité. Et même quand on parle d'un film historique, 80 oui. 000 ans, il faut que l'on ait la sensation. On voudrait aussi qu'il y ait, si c'était possible, qu'il y ait le souffle, qu'il y ait le blizzard. Et je ne sais pas pourquoi, mais la véritable image apporte une sensation que n'a pas, je trouve, l'image de synthèse. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de faire voir un paysage pour le téléspectateur, mais aussi pour nous, pour les techniciens. Mm-hmm. Il faut que nous aussi, on
est
techniciens.
Immergés.
Ben oui, on soit on devient fragile. Mm-hmm. Les bourrasques de vent, la pluie intensive, tout ça nous donne une impression et permet un tournage et peut-être même un regard un peu plus incisif, un regard un peu plus particulier, parce qu'on sait que ce qui se produit, c'est-à-dire les difficultés météorologiques, on sait qu'il faut le filmer. Donc c'est un petit combat par rapport à un environnement qui se veut hostile. On adore cette hostilité.
On adore. Jacques Clouzot, et quand vous posez votre caméra, en même temps, il se pose à vous un problème qui ne se posait pas précédemment, c'est-à-dire comment avoir dans le champ des animaux qui étaient bien là il y a 20 000 ans, d'aucuns ont disparu, d'autres sont apparus, comment faire le tri à l'image puisque vous prenez le parti justement d'immerger votre caméra en milieu naturel?
On utilise en fait deux types de cinéma. Mm-hmm. Quand on veut filmer des petits oiseaux qui nourrissent leurs poussins, ça a été fait depuis très
oiseaux,
très regarde, longtemps.
On les a là, les petits oiseaux. Les petits oiseaux, justement.
Donc, les parents oiseaux qui nourrissent leurs petits, mm-hmm. on peut le filmer dans la nature. On ne peut le filmer même que dans la nature, avec une approche consciencieuse faite par des spécialistes du cinéma animalier. Mais quand on veut que ce petit oiseau chante dans un arbre et que sous cet arbre arrive un chasseur-cueilleur qui essaie de l'imiter avec une flûte.
Oui.
À ce moment-là, la nature, impossible. On ne peut pas
Donc c'est
envisager
ce qu'on appelle
de faire
en scène.
Ça. Alors là, on arrive, oui, à quelque chose qui est plus proche, effectivement, d'une mise en scène,
oui.
effectivement, et qui se fait, comme nous l'avions fait pour le peuple migrateur, avec des animaux et des oiseaux, puisqu'on parle des oiseaux, imprégnés. C'est-à-dire des oiseaux qui ne craignent plus les hommes. Et ça, c'est toujours assez miraculeux que d'arriver dans un endroit ouvert et de voir ces petits oiseaux tout petits, une mésange, un merle.
Alors cette séquence merveilleuse où la femelle met à bas un petit et le lèche, ça j'imagine que c'est quelque chose qui a été pris sur le vif dans la nature, Jacques Clouzot.
Alors vous parlez de la naissance du faon, un peu les deux. On ne filme pas une biche qui met bas dans la nature. On risquerait de perturber l'événement.
D'accord.
Et elle refuserait. Donc, il faut une confiance. Donc, ce sont des biches qui vont supporter une approche respectueuse et à distance.
Quels sont, Jacques Perrin, les problèmes que vous ont posés la forêt ? Des problèmes spécifiques qui ne sont pas ceux de l'océan, ni ceux des airs.
La forêt, il y a tellement de difficultés techniques.
Il y a tellement d'arbres, je croyais que vous alliez me dire ça. Il y a des arbres partout.
Il y a des arbres partout, ce qui veut dire, s'il y a des arbres partout, la lumière ne pénètre pas. Mm-hmm. Et la première difficulté, c'est de s'apercevoir, sauf dans des clairières, dans des terrains qui sont relativement ouverts, mais autour des arbres, c'est terrible. Donc on est obligé de mettre des lumières de compensation.
Oui.
Et des lumières de compensation, ça fait un peu peur, parce qu'automatiquement, avoir une lumière qui n'est pas tout à fait naturelle. Donc c'est un statu quo, avec de temps en temps, pour souligner la lumière naturelle, un peu appuyée avec quelques flashs, quelques projecteurs, mais très extrêmement bas. Et véritablement, la qualité de la lumière, c'est pas ce que l'on ajoute, c'est d'observer quel est le résultat, quelle est la sensation et l'émotion que nous donne la lumière particulière et de l'accentuer un tout petit peu sans que pour autant ça donne l'impression d'être une photo d'une revue où d'un seul coup les animaux sont tout à fait illuminés. Et sur les petits oiseaux, par exemple, comme Padre Jacques, bien souvent qui sont dans les petits nids à l'intérieur des branchages, c'est compliqué de faire en sorte que l'animal ne soit pas perturbé par le dispositif qui est autour de lui et puis en même temps de faire en sorte que ce soit une révélation du naturel.
Alors, morceau de bravoure, les chevaux et les loups. Poursuite spectaculaire hein, dans ce film, Le Peuple des Forêts, signé Jacques Clouzot et Jacques Perrin, qui sont mes invités ce matin. Course-poursuite spectaculaire entre des chevaux sauvages et des loups. Et là, évidemment, on a assez envie de savoir quels sont les dessous des cartes. Parce que comment fait-on finalement pour que la meute des loups finisse par ne pas totalement bouffer ces chevaux, qui sont donc des animaux imprégnés que vous avez fait venir en forêt, Jacques Clouzot?
Alors, le danger est plutôt inverse. Hein.
Le
danger, c'est pour les loups. Le danger, c'est que le loup se prenne un coup de sabot terrible, beaucoup plus que pour le cheval.
Alors donc, vous avez mis la meute, vous avez mis le troupeau, et ensuite, comment vous les avez dirigés finalement ?
Au moment de la préparation, on n'imaginait pas une seconde faire courir les loups et les chevaux en même temps. C'est petit à petit, par un garçon qui s'appelle Vincent Stégère, nous a dit « mais ça se passe pas mal, on peut essayer ». Donc on a fait la tentative, à ce moment-là, de faire courir les chevaux et les loups ensemble. Et ça se passait plutôt pas mal. On voit d'ailleurs dans le film et dans la série, quelques coups de pied comme ça, mais les loups ont vite compris. Et donc voilà, cette scène que l'on pouvait pas rêver s'est produite vraiment, et c'est une scène qui n'existe plus dans nos forêts, mais qui a existé, et qui s'est probablement passée de la façon dont on l'a vu.
Et maintenant, les hommes. Alors, il faut attendre le milieu de la série, très précisément, à la minute près, pour que l'homme apparaisse. Il est déjà présent au tout début de la série, mais ce ne sont que ses traces, les peintures rupestres, les sculptures. Là, encore une fois, c'est tout le défi d'introduire l'homme dans ce paysage naturel. Parce que là, pour le coup, l'homme, il est figurant, il est déguisé, il sonne faux, forcément, Jacques Perrin.
Mais c'est bien sûr un film sur les animaux et sur les hommes, mais c'est un film aussi sur les milieux. C'est un film sur l'Europe, sur le nord, donc du continent, de la planète. Donc, il y a 20 000 ans, il y avait très peu d'hommes. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'était la proportion. Il y a quelques cairns qui sont disposés, des pierres additionnées les unes aux autres, qui montrent, comme vous le dites, la trace, et non pas la présence. Et puis, petit à petit, vous savez, l'homme est très très vite, même dans des temps anciens, il est très conquérant. Et très conquérante, donc la population humaine s'est agrandie, et en même temps, elle s'est agrandie en empiétant sur celui des animaux.
Ça, ce sera tout l'objet du troisième épisode, hein,
absolument.
Que je recommande d'ailleurs à tous les enfants qui sont en sixième de le regarder, parce que c'est vraiment leur programme scolaire, c'est ce qu'ils apprennent en histoire et géographie, c'est la façon dont on va, au néolithique et au paléolithique, transformer le paysage en Europe.
Transformer, mais c'est là aussi où l'homme se transforme, après avoir été chasseur-cueilleur, l'homme commence à construire des villages, commence à être...
Donc il défriche, il cultive, il jardine.
Et ce terrain, c'est plus un terrain neutre, c'est le leur.
C'est ça. Et là où le premier épisode, finalement, c'est cette espèce de conquête vertigineuse de la forêt, le troisième épisode, au contraire, c'est la forêt morcelée, fragmentée, abîmée, la forêt qui recule, et les animaux également. En même temps, vous racontez des choses très jolies, puisque vous la racontez toujours du point de vue des animaux, et vous dites, la civilisation gallo-romaine a inventé la campagne. Avec les animaux qui vont surgir, et les moines chrétiens ont inventé les étangs et vont peupler l'Europe d'étangs.
Absolument. Et c'est une transformation des milieux tout à fait considérable. Nous savons qu'autour de Lyon, là, des Dombes, il y a nombre comme ça d'étangs qui ont été creusés et dont on a aperçoit que, ah ben, il y a une disposition tout à fait naturelle qui a été faite par l'environnement. Non, pas du tout. C'est l'homme qui a creusé et qui a creusé très très vite parce que pour pouvoir s'alimenter, il y avait besoin de poissons.
Alors ensuite, évidemment, l'histoire s'accélérera, mais je laisserai les téléspectateurs le découvrir à partir du tournant fatidique qui a été la Première Guerre mondiale. Ma question, Jacques Perrin, c'est la suivante. Est-ce que filmer la nature ne suffit plus? Vous êtes, on le sait, hein, depuis plus d'une quinzaine d'années, devenu une sorte de lanceur d'alerte. Est-ce que filmer la nature, belle, magnifique, majestueuse, la beauté, la poésie des animaux, ne suffit plus?
Je ne sais pas si ça suffit plus. Je pense que c'est pas suffisant. Je pense aussi que malgré tout, ce qui est indiqué aussi dans le film, c'est qu'il y a un retour. Il y a une conscience qui est presque universelle. Parlons de l'hémisphère nord, qui est de... Allez, on ne peut pas se laisser dégrader la planète parce que cette planète, nous en vivons, parce que c'est notre façon d'être, de marcher, de communiquer avec les autres. Et quand on regarde ce qu'était la France, tout simplement, il y a 20 ans, il y a 30 ans, la France était beaucoup plus dégradée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a des personnalités, il y a des amateurs, il y a des associations qui se préoccupent et qu'on peut souhaiter pour que ça aille mieux. C'est que les autorités prennent le pas de ceux qui s'intéressent à la nature. Je pense que la mobilisation, les films que l'on fait, c'est comme des tas de missions de télévision, de radio, ce que vous faites. Nous sommes des lanceurs d'alerte, oui, bien sûr. Et je trouve que c'est pas plus mal qu'on le fasse d'une façon poétique et non pas tout simplement par le raisonnement.
Merci beaucoup à tous les deux. Le Peuple de la Forêt, c'est à partir de 14h et c'est samedi après-midi sur France 2. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.